Laudetur Jesus Christus.
Soulagement au Nigeria. Les centaines de jeunes filles capturées en fin de semaine ont été relâchées. On vient de l'apprendre. Elles sont maintenant en sécurité. Nous y revenons juste après les titres. Des élections législatives anticipées. C'est le va-tout de Nikol Pachinian en Arménie. Le Premier ministre contesté. Une nouvelle soirée de rassemblement a eu lieu hier. Une double clôture grillagée pour séparer la République dominicaine et Haïti. C'est le plan du président dominicain pour stopper l'immigration illégale. Un demi-million d'Haïtiens se trouvent en République dominicaine sur une population de 11 millions. Les détails à suivre. En France, c'est une première. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est condamné à 1 an de prison pour trafic d'influence et corruption. Et puis, dans notre dossier en fin de journal, nous partons déjà en Irak, plus précisément à Erbil, dans le Kurdistan irakien, où nous retrouverons le frère Pokillon. Il nous parle des attentes sur place.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Le pape s'était inquiété de leur sort dimanche après la prière de l'Angélus. Eh bien, la centaine de jeunes filles enlevées au Nigeria vendredi dernier ont été libérées. Les centaines de jeunes filles, annonce tout juste faite par le gouvernement de l'État de Zamfara. Les élèves ont été vus dans les locaux du gouvernement régional. Un soulagement après plusieurs jours de confusion, Xavier Sartre.
Oui, confusion déjà, Marine, sur le nombre de jeunes filles enlevées. Les autorités avaient parlé dans un premier temps de 317 pensionnaires ce matin. Elle n'en évoque que 279, mais assure qu'elles ont été toutes libérées. Confusion ensuite sur le moment de leur libération dimanche. En avait circulé la nouvelle, vite démentie, et puis confusion sur les circonstances de leur retour à la liberté. En général, dans ce genre de cas, les autorités nient avoir payé une rançon. Là encore, aucune précision n'a été donnée. Alors ce matin, on a un peu de certitude toutefois. La première, c'est que l'on voit sur des images de médias locaux ces jeunes filles. Elles portent leur hijab bleu ciel. Elles arrivent au siège du gouvernement de l'État de Zamfara à Gusao. Elles prennent place dans une grande salle de conférence, elles apparaissent toutes en bonne santé. Pour le moment, aucune précision en revanche n'a été donnée sur les auteurs de leur enlèvement. Il s'agirait toutefois de bandits dont la seule motivation est criminelle. Pas de lien apparent donc avec Boko Haram qui avait enlevé en 2014 276 lycéennes de Chibok, ce qui avait provoqué à l'époque une vive émotion dans le monde entier.
Merci Xavier Sartre. Une régression dans le domaine des droits de l'homme, c'est l'amer constat que font les évêques de la RDC dans une déclaration publiée hier. La conférence épiscopale congolaise déplore les répressions d'activistes, les attaques contre les civils par des groupes armés ou les forces gouvernementales. La CENCO qui alerte. Si elle s'était réjouie de l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, celui-ci ne semble plus continuer sur la même lancée. Il s'est estompé, estiment les évêques congolais. On reste sur le continent africain où le dispositif COVAX gagne peu à peu du terrain. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les premiers à vacciner grâce à cette initiative pour garantir des injections également aux pays les plus pauvres. Et près de 4 millions de doses devraient arriver aujourd'hui au Nigeria. Direction maintenant l'Arménie, où la crise politique semble s'enliser. Le Premier ministre accuse l'état-major de l'armée d'avoir collaboré avec l'opposition et accuse également le président arménien de ne pas le soutenir car il n'a pas signé le décret limogeant le chef de l'état-major. Sur place, la contestation prend de l'ampleur. Les explications d'Asmik Arakelian.
L'état-major de l'armée d'Arménie, l'église, le président du pays, les intellectuels, les hommes de culture demandent la démission du premier ministre arménien Nikol Pachinian. Mais il ne cède pas. D'après son appel, lundi soir, quelques milliers de ses partisans s'étaient rassemblés sur la place de la République pour mettre fin à la crise politique que connaît le pays après la défaite de la guerre au Haut-Karabakh. Pachinian a annoncé qu'il a l'intention de passer l'élection législative anticipée si cette proposition soit acceptée par les forces d'opposition parlementaires. Le Premier ministre s'est exprimé que seul le peuple est en mesure d'établir un gouvernement légitime en Arménie par son choix. En même temps, devant le bâtiment du Parlement, il se déroulait la manifestation d'opposition avec plus de 10 000 de participants, parmi eux des généraux de l'armée. Les manifestants insistaient que Pachinian doit immédiatement quitter son poste. D'après eux, il n'est pas capable de gérer le pays. L'opposition a exprimé aussi son soutien au président d'Arménie qui a refusé samedi de valider le limogeage du chef de l'armée.
À Yerevan, Hasmi Karakelian pour Radio Vatican.
Nous vous en parlions hier. Les Nations Unies espéraient récolter près de 4 milliards de dollars lors d'une réunion de donateurs pour le Yémen. Seuls 1,7 milliard ont été promis, un résultat décevant selon l'ONU. Pour soutenir un pays où règne le chaos et dans lequel près de 2 personnes sur 3 dépendent de l'aide étrangère pour survivre. Plus d'informations sur notre site internet où vous retrouverez le cri d'alerte de Monseigneur Inder, le vicaire apostolique de l'Arabie méridionale. Un nouveau mur pour séparer des pays, celui à venir entre la République dominicaine et Haïti. Devant le Congrès, à l'occasion de la fête d'indépendance du pays, le président de la République dominicaine, Luis Abinader, a annoncé son intention de construire une double clôture le long de sa frontière avec Haïti pour freiner notamment l'immigration illégale en provenance de son voisin. Les explications de Marie Duhamel.
Après un projet de rapatriement forcé des migrants haïtiens, l'érection déjà de tronçons de barrières sur quelques kilomètres, les autorités dominicaines prévoient donc l'installation d'ici 2 ans d'une double clôture grillagée sur les 380 kilomètres de frontières séparant les deux pays, agrémentée pour les points les plus chauds de capteurs de mouvement, de caméras infrarouges et de systèmes de reconnaissance faciale. Fiammetta Capellini travaille pour la fondation italienne AFSI en Haïti. Elle revient sur ce qui pousse aujourd'hui le président Abinader à agir.
Il y a un rapport historiquement difficile entre les deux pays. Et c'est une petite île au niveau géographique, scindée en deux pays qui ont un rythme de croissance très différent. Alors que la situation en Haïti est en train de se détériorer, notamment à cause de la crise politique qui dure depuis 2 ans et demi, une des portes de sortie pour les Haïtiens, c'est l'immigration vers la République dominicaine pour trouver du travail. Le gouvernement dominicain craint donc que la pression migratoire augmente encore davantage et semble déterminée à aller de l'avant avec la construction du mur.
Actuellement, sur une population de 11 millions d'habitants, on estime qu'environ 500 000 migrants haïtiens vivent en République dominicaine, dont beaucoup sont en situation irrégulière. En janvier, le président Abinader avait déjà annoncé le lancement d'un processus d'identification des migrants haïtiens présents sur son territoire, en collaboration avec Port-au-Prince.
Marie Duhamel. Le drame avait fait couler beaucoup d'encre sous le mandat du président américain Donald Trump. La séparation des familles de réfugiés, notamment d'Amérique du Sud, et bien son successeur Joe Biden entend réunir ses familles. Selon le ministre américain de la Sécurité intérieure, 100 de familles ont déjà pu se retrouver en quelques semaines et le travail se poursuit. En France, c'est une première sous la 5e République. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné hier soir à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour trafic d'influence et corruption. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir parlé avec son avocat Thierry Herzog de promettre un poste d'ambassadeur de France à Monaco au magistrat Gilbert Azibert en échange d'informations sur une affaire judiciaire. C'est la première fois depuis 1958 qu'un chef de l'État français est condamné à de la prison ferme. Marie-Christine Bonzon.
La peine retenue contre l'ancien président français est inférieure à celle réclamée par le parquet national financier, mais elle est historique. Depuis le début de la 5e République, en effet, Nicolas Sarkozy est le premier ancien chef d'État à se voir infliger une peine de prison ferme. En 2011, Jacques Chirac avait bien été condamné à 2 ans de prison, mais avec sursis. Hier soir, les juges ont estimé que les faits qui étaient reprochés à Nicolas Sarkozy sont d'une gravité particulière. L'ancien président fait appel de sa condamnation, qu'il qualifie d'injuste et d'infondée. En plus de cet appel, il n'en a pas fini avec la justice. Il doit comparaître à partir du 17 mars dans une autre affaire, portant cette fois sur le financement de sa campagne présidentielle de 2012. Les partis de droite dénoncent un acharnement judiciaire contre le dernier président à être sorti de leur rang. À gauche, les Verts voit dans la condamnation de M. Sarkozy une preuve de fonctionnement de la démocratie. Mais Jean-Luc Mélenchon, chef de la France insoumise, dénonce à nouveau une justice politique en relevant que la condamnation de M. Sarkozy permet à Emmanuel Macron de se débarrasser d'un sérieux rival en vue des présidentielles de 2022. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
Les Européens changent de tactique et durcissent le ton face à l'Iran. Ils vont soumettre cette semaine à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, une résolution pour condamner Téhéran après son refus de laisser les experts internationaux entrer sur ses sites nucléaires. Jean-Paul II l'avait tant souhaité, François est sur le point de le réaliser. Le premier voyage d'un pape sur la terre d'Abraham et de Jonas. Le Saint-Père, de vendredi à lundi prochain, rencontrera à Bagdad, dans la plaine d'Our, à Erbil au Kurdistan irakien, ainsi qu'à Mossoul et à Karakoche, les différentes communautés qui composent l'Irak, un pays exsangue ayant subi ces dernières années la guerre et la présence des djihadistes de l'État islamique. Tout au long de ce pèlerinage, le pape irak Vous êtes tous frères », c'est le thème de ce déplacement placé sous le signe de la fraternité humaine. Le frère Olivier Poquillon, dominicain à Erbil, nous décrit ce matin l'importance de ce voyage pour l'ensemble de la population irakienne en quête de paix.
La visite du pape François dans la plaine de Ninive est un événement majeur. Vous savez, en Orient, quand on veut honorer quelqu'un, on ne l'invite pas chez soi, on lui rend visite. Et le pape, donc le chef de l'Église catholique, se rend auprès d'un parent souffrant. Cette visite à Mossoul même sera une visite de compassion, une visite de prière aussi, pas de discours politique, mais de prière pour les victimes. Dans un cadre où aujourd'hui, chrétiens et musulmans essayent de travailler ensemble à la construction de trois édifices majeurs de la vieille ville, la grande mosquée, la cathédrale Al-Tahira et le couvent des dominicains Al-Sahr. Décréter l'union entre les religions, c'est une chose, mais la vivre, c'est autre chose. Et je pense que ce que va faire le pape, c'est se rendre au contact de ces hommes et de ces femmes qui sont engagés ensemble au quotidien pour essayer de trouver des solutions aux difficultés qu'ils vivent au quotidien. Le dialogue interreligieux, il peut être au niveau théologique, il peut être au niveau politique, mais il est d'abord au niveau de la fraternité humaine.
Le pape va visiter un pays fracturé où il y a une perte de confiance, de capacité de dialogue. Cette présence du Saint-Père peut-elle créer des ponts entre les différentes communautés ?
Ce voyage du pape est le premier dans la région qui ait jamais eu lieu, mais il se situe à la suite du voyage à Abu Dhabi avec cette déclaration sur la fraternité humaine, déclaration commune avec le grand imam d'Al-Azhar, le voyage en Égypte, le voyage au Maroc aussi avec le roi du Maroc, avec cette thématique de passer du statut de minorité à la pleine citoyenneté. Avant de reconstruire des villes comme Mossoul, Kirkouk ou autres qui ont été impactées parfois violemment par les combats des dernières décennies, il faut rebâtir la confiance. Et le pape nous lance deux appels, un appel à la confiance pour les chrétiens et un appel à s'engager dans le dialogue avec nos voisins, avec nos frères, donc qui vivent au quotidien avec nous. Oui, il reste des traces, évidemment, la confiance, ça se décrète pas. Mais je pense que ce que nous faisons, c'est d'essayer de multiplier les occasions d'activités communes, de vie commune, que ce soit à travers les activités universitaires ou à travers des choses tout à fait terre-à-terre comme le déblaiement, le déminage, la reconstruction.
Les chrétiens en Irak représentent aujourd'hui entre 300 et 400 000 personnes. Ils étaient près de 1,4 million en 2003. Cette visite du pape sur leur terre ancestrale peut-elle éviter les nouveaux départs et encourager les retours ?
Je pense que c'est un faux débat aujourd'hui. Ce qui me semble important, ce n'est pas de savoir si les chrétiens veulent partir ou rester. Ils sont comme tous les Irakiens. S'ils ont des perspectives économiques et des perspectives de jouer un rôle dans la société, ils resteront. Et s'ils n'en trouvent pas, eh bien, ils chercheront à émigrer. En revanche, je pense que ce voyage est vraiment l'occasion de voir ce dans quoi les chrétiens s'engagent. Et les chrétiens s'engagent beaucoup auprès des plus pauvres, beaucoup auprès des gens en situation de handicap, beaucoup dans des activités qui permettent l'épanouissement personnel. Donc les chrétiens ne sont pas une force majeure, c'est une toute petite composante de la société irakienne, mais ça peut aussi permettre un dialogue entre les grands groupes en évitant le face-à-face.
Au niveau plus personnel, que signifie pour vous ce voyage apostolique ? Qu'en attendez-vous ?
Ce qu'on voit, c'est se concrétiser ce rêve qui était déjà celui de Jean-Paul II, de venir sur la terre d'Abraham parce que le salut est offert à tous. C'est le message d'Abraham, c'est le message de Jonas. Donc ce que j'espère, c'est que nous pourrons, chacun à notre rythme, chacun par notre chemin, converger vers ce Dieu qui nous sauve, un Dieu d'amour et de miséricorde, qui a choisi cette terre pour s'incarner.
Voilà, interrogé par Hélène Destombes, le frère Olivier Poquillon, dominicain à Erbil dans le Kurdistan irakien, était ce matin notre invité. Le prochain retour de l'information, c'est tout à l'heure, à 13h. En attendant, je vous souhaite une très belle journée.